VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a plaidé aujourd'hui non coupable à l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité, 5 ans après les violences post-électorales ayant déchiré la Côte d'Ivoire. « Je plaide non coupable », a souligné Laurent Gbagbo après lecture des charges par un représentant du greffe, à savoir meurtre, viol, acte inhumain et persécution. Son allié et co-accusé Charles Blé Goudé, ancien chef de milice, a lui aussi plaidé non coupable. Ici aux États-Unis, ce procès sera très suivi par la communauté ivoirienne. Niaka Lagoké est ivoirien, professeur d'histoire à Montgomery College, dans la région de Washington.
C'est vrai que Laurent Gbagbo n'est pas un enfant de cœur, mais il est définitivement pas ce que l'on veut présenter de lui. Et le procès qui va avoir lieu va être non seulement le procès de Soro aussi, qui a été le chef de la rébellion, de M. Alassane Dramane Ouattara qui a fait la rébellion, le procès de Blaise Compaoré qui a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire, et surtout le procès de la France qui s'est impliquée dans la guerre en Côte d'Ivoire du côté de M. Ouattara, et le procès de la communauté internationale, en un mot, le procès du néocolonialisme. Pour nous, c'est une opportunité pour essayer de dire aux Africains, à tout le monde, que c'est inadmissible qu'un chef d'État africain se retrouve dans une prison d'un pays qui a été à l'origine de l'apartheid. Et donc l'histoire de Gbagbo nous rappelle à nous les tragédies qui sont arrivées à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, à Kwame Nkrumah et à toute cette ouverture, à tous ces symboles-là qui, à un moment donné, ont voulu défier l'ordre international dirigé par les Occidentaux.
Niaka Lagoké, professeur d'histoire à Montgomery College, l'université du comté de Montgomery, dans la banlieue de Washington. Mais en Côte d'Ivoire même, le parti au pouvoir n'a pas la même lecture concernant le procès de Laurent Gbagbo. Joël Nguessan est porte-parole du RDR, le parti du président Alassane Ouattara.
Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès qui fait suite à des tueries massives qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Qui a recruté des mercenaires? Qui a armé les miliciens? Qui a tiré sur les femmes dans les marchés? Qui a inventé le fameux article 125 où on prenait du pétrole et on mettait sur des individus et puis on les brûlait? C'est cette vérité que nous souhaitons avoir. Une fois que les Ivoiriens sauront les responsabilités et la vérité, la Cour pénale a rempli sa mission.
Joël Nguessan, porte-parole du RDR, le parti du président Alassane Ouattara. Au Niger, annonce hier de l'alliance de 4 candidats de l'opposition, dont l'ex-président du Parlement, Ama Amadou, pour appeler à voter pour celui qui serait le mieux placé en cas de deuxième tour de la présidentielle. L'objectif de cette coalition pour l'alternance 2016, baptisée COPA, semble clair. Faire barrage au président Mahamadou Issoufou, candidat à un second mandat sous les couleurs du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Pas d'inquiétude pour le leader du PNDS, le parti au pouvoir. Mohamed Bazoum revient également sur la controverse du fichier électoral et l'absence de 1,5 million d'électeurs lors des prochaines élections.
Ce serait dommage qu'un 1,5 million de Nigériens inscrits ne votent pas. Nous étions partis pour faire un fichier biométrique, donc on aurait disposé des photos et des empreintes digitales. Maintenant que nous avons un fichier ordinaire, ça pose problème. Nous devrions accepter que ces électeurs votent comme par le passé. Nous avons toujours été dans l'opposition et nous avons toujours à l'époque accepté que l'on procède à des votes par témoignage. C'est l'état de l'état civil dans notre pays comme ça qui est exprimé à travers cette situation. Mais si l'opposition devait ne pas être d'accord avec cela, ce serait tant pis pour nous tous.
Mohamed Bazoum, président du parti au pouvoir au Niger. La Cour suprême du Nigeria a infirmé la décision d'une cour d'appel qui prévoyait l'annulation de l'élection du gouverneur de l'État pétrolier de Rivers dans le sud. Cette cour a confirmé la victoire du candidat Naissom Wike. Le scrutin dans l'État de Rivers, un État crucial où se concentre la production pétrolière et gazière du premier producteur d'or noir d'Afrique, était une bataille clé pour le PDP et l'APC lors des élections des gouverneurs en avril. Le PDP de l'ancien président Goodluck Jonathan est au pouvoir dans cet État depuis le retour du Nigeria à un régime civil en 1999.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, les dirigeants africains se prononceront lors de vote inédit en fin de semaine durant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba sur le déploiement d'une force au Burundi malgré l'opposition du gouvernement burundais. Plus de détails avec Annette Burson.
Une majorité des deux tiers est requise pour autoriser l'envoi de cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU, décidée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en décembre, mais que le président burundais, Pierre Nkurunziza, qui n'a pas encore fait savoir s'il assisterait au sommet, a promis de combattre comme une force d'invasion et d'occupation. Le sommet de l'UA devrait également décider du sort de la médiation ougandaise, incapable pour l'heure de faire reprendre les négociations entre le camp de Nkurunziza et le large front de ses adversaires, alors que les membres du Conseil de sécurité poussent pour un rôle accru de l'ONU dans ces discussions. Outre la crise burundaise, les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur l'impasse dans l'application de l'accord de paix devant mettre fin à 2 ans de guerre civile et d'atrocités au Soudan du Sud, les attaques djihadistes au Sahel, au Nigeria et aux alentours, l'instabilité politique en Libye et le processus électoral en cours en Centrafrique. Parallèlement, le sommet devrait élire, comme chaque année, le nouveau président de l'organisation. Le poste honorifique change tous les ans de région, cette année étant le tour de l'Afrique centrale, le nom du chef de l'État tchadien, Idriss Déby, circule pour remplacer son homologue zimbabwéen, Robert Mugabe.
RDC, le gouvernement congolais a remis hier un arsenal anti-émeute à la police, provoquant l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme à 11 mois d'élections incertaines. Selon la MONUSCO, la mission onusienne sur place, les agents étatiques congolais sont responsables de 49% des abus dans le pays. José Maria Aranaz est le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC.
En total, on a enregistré 3847 violations des droits de l'homme, les agents étatiques. Ils sont commis aussi 294 exécutions extrajudiciaires. On a documenté aussi 260 violations des droits de l'homme qui ont des relations avec le processus électoral. Une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique et de la restriction de la liberté publique, contraire à l'esprit des élections crédibles.
José Maria Aranaz au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Toujours concernant l'Afrique, la commission de toponymie de la province du Québec au Canada a entrepris une opération de collecte des noms des célèbres personnalités d'origine africaine en vue de les inclure dans sa base de données. Des noms qui pourraient alors être donnés à des rues, des places ou autres sites. C'est une manière pour la province canadienne d'honorer les Africains ayant marqué son histoire. Timothée Donangbaya joint à Montréal Chika Kanyori, éditeur du magazine Transatlantique et un des contributeurs à l'initiative québécoise.
Nous, on avait déjà travaillé pour faire réhabiliter certaines personnes qui étaient africaines et noires qui étaient dans l'histoire du Canada, notamment Mathieu Dacosta, qui était le compagnon interprète de Samuel de Champlain lors de la fondation du Canada en 1604 et puis de la ville de Québec en 1608 et pour qui nous avons fait nommer une rue à Québec en 2008 au sommet de la francophonie d'ailleurs de Québec pour les 400 ans de la fondation de la ville. Puis il y a eu aussi Marie-Joseph Angélique, une esclave noire qui était née au Portugal et qui était amenée ici, qui a été exécutée d'ailleurs ici après un procès bâclé en 1734. On l'avait accusée d'avoir brûlé une partie de la ville et puis on s'est rendu compte à la fin que c'était faux. Tout simplement, on la punissait puisque elle revendiquait beaucoup et qu'elle voulait se marier avec un blanc. Et donc, finalement, on l'a fait réhabiliter en 2012. Et il y a une grande place devant l'hôtel de ville de Montréal, au métro Champ de Mars, qui porte son nom, mais n'est pas encore inaugurée.
Chika Kanyori, éditeur du magazine Transatlantique, joint à Montréal au Canada. Et pour terminer, la France a fortement recommandé aujourd'hui aux femmes enceintes de différer d'éventuels voyages aux Antilles et en Guyane française, en Amérique du Sud, où se développe l'épidémie de Zika qui peut causer de graves malformations chez les fœtus. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.